Depuis 2 mois, notre classe de 3e, au collège Toulouse-Lautrec, travaille sur un projet radio en collaboration avec la radio Canal Sud.
Une radio toulousaine qui traite de divers sujets d'actualité comme
la politique, les droits humains et la place des femmes en sein de la société en mettant en rapport les grandes et petites histoires.
Notre projet parle des femmes et de l'immigration vers la France de 1945 à aujourd'hui. De fait, nous avons choisi ce thème car il s'intègre dans le programme d'histoire de 3e.
Il met en lumière le fait que la parole n'est pas assez donnée aux femmes et que notre société actuelle est majoritairement dominée et dirigée par les hommes.
Une petite histoire, qu'est-ce que c'est ? Une petite histoire, c'est une anecdote personnelle sur la vie, un parcours ou une petite partie de la vie.
Elles sont souvent racontées par nos ancêtres et racontent des voyages ou leurs immigrations vers un autre pays.
Une grande histoire, qu'est-ce que c'est ? Une grande histoire, c'est un événement marquant de la vie collective, souvent raconté en cours, provenant de grands chercheurs et d'institutions. Par exemple, les guerres, les batailles, les révolutions, les grandes lois importantes.
Tout d'abord, avant le projet radio, nous avons commencé par travailler sur le thème « Comment devenir français ?» Plus précisément, « Comment obtenir la nationalité française ?»
Deuxièmement, avant le projet radio, nous avons vu aussi une exposition du nom de Obledi qui parle de l'immigration des Maghrébins en France vers 1950-60.
Depuis la grande vague migratoire de la seconde moitié du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle, la France est le premier pays d'immigration en Europe et le plus ancien. En 1900, elle accueille environ 1 million d'étrangers, soit 2,6% de la population totale. Mis à part la période de la Seconde Guerre mondiale, le nombre d'étrangers ne cesse de s'accroître, 2,7 millions en 1931. 3,5 millions en 1975. En 1960, lorsque la France limite l'immigration de main d'œuvre non qualifiée, en favorise une politique de regroupement familial et d'intégration des immigrés installés sur le territoire national.
Loi de 1998 pour devenir français. Ça dit qu'il faut au moins vivre 13 ans dans le pays, si on a des parents qui ne sont pas français. Et ça, c'est le droit du sol, je crois.
Acquérir la nationalité, il y a plusieurs moyens déjà.
Soit on a déjà des parents français, soit on a un des parents qui est déjà français.
Toi, se marier avec quelqu'un qui est français, non ?
Ben, à peu près tout le monde a le droit d'acquérir une nationalité quand même. Parce que c'est un pays qui appartient à tout le monde. Il n'y a pas des gens qui n'ont pas le droit et d'autres qui ont le droit. Fin...
Et ça se passe comment en vrai ?
C'est difficile de l'acquérir.
Ouais.
Ben, moi, j'ai eu la nationalité il n'y a même pas l'année dernière, en 2019.
Ah bon ?
Oui.
Ah oui.
Ça fait qu'un an que je suis française. Sinon, ma mère, elle était partie pour ses études. Et après que je sois née en 2005, il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire. Ma mère, elle était bien en Afrique, etc. Mais comme elle avait perdu ses parents, que ses oncles s'occupaient mal d'elle, etc., ben, elle devait faire des études. Et la France, c'était vraiment son meilleur recours. Et après, mon père l'a suivi.
Comment t'as fait, toi, pour avoir la nationalité ?
Ben, on l'a réclamé à la préfecture, on a eu beaucoup de marches administratives. Ma mère a vraiment galéré à l'avoir et dès que j'ai eu, ben, elle était soulagée. Parce que ma sœur, elle l'a eu avant moi.
Mais alors, moi, j'ai rien compris comment ça marche, en fait. T'es née en France, mais t'as eu la nationalité au bout de quelques années.
En fait, il faut être née en France et rester dans le territoire français jusqu'à ses 13 ans.
Mais normalement, quand t'es née en France, tu es directement française ?
Non, parce que mes parents, ils n'étaient pas français.
Il faut avoir l'un des deux parents français.
Oui, j'avais oublié ça.
Et qu'est-ce que ça change d'être avec une carte de séjour ou d'être avec la nationalité ? Ça change quoi dans ton quotidien ou dans ta façon d'appréhender la vie ou j'en sais rien ?
Dans mon quotidien, ça n'a rien changé, mais ma mère, elle m'a dit que j'avais plus d'opportunités avec la nationalité française parce que je pouvais plus voyager, que j'étais reconnue française par l'État, donc j'avais des avantages. Et moins d'inconvénients avec la carte de séjour parce que si elle expirait, etc., ça pouvait créer des problèmes.
Comme le montre cette exposition, les femmes étrangères arrivent en France en nombre dès la fin du 19e siècle. Comme les hommes, elles quittent leur pays d'origine pour des raisons économiques, politiques ou familiales. Les données historiques démentent l'idée répandue selon laquelle les femmes seraient arrivées en France plus tard que les hommes et que leur place se limiterait essentiellement à la dimension domestique et maternelle. En 1911, elle représente déjà 47% de la population immigrée, 40% en 1931 et deviennent majoritaires au début des années 2000 avec 51%. Ainsi, les femmes étrangères occupent une place importante dans la société par leur participation active à la vie économique, sociale, culturelle, syndicale et politique, même si elles sont encore trop souvent confinées dans l'oubli et dans l'ombre des hommes, parce que femme et immigrée.
Au début des années 1970, le nom collectif des femmes immigrées voit le jour. Fondée en 1972 par des étudiantes de l'Union nationale des étudiants marocains, UNEM, et des militantes de groupes politiques marocains internationalistes, l'association des femmes marocaines milite contre la répression politique au Maroc et pour les droits des femmes.
Est-ce que tout le monde est français ici ?
Non.
Non.
Vous me racontez un peu ?
Moi, je suis un émigré portugais. Ma mamie vivait au Portugal. Et comme au Portugal, avant, c'était en période de crise, il n'y avait plus de travail. Enfin, vraiment, c'était la crise. Et du coup, ma mamie, elle est en France à 18 ans, l'âge de ses 18 ans. Et elle est en France. Et voilà.
Alors, moi, je suis espagnole, je viens de Barcelone. Et je n'ai pas la nationalité française, mais j'ai la nationalité espagnole. Et je n'ai pas envie de l'avoir.
Pourquoi ?
Parce que je suis contente avec ma nationalité espagnole. Enfin, j'ai pas besoin d'une autre nationalité, quoi.
Moi, je viens de Portugal, de Porto. J'ai la nationalité portugaise. J'ai pas la nationalité française, mais pour moi, c'est pareil. Portugaise ou française, pour moi, c'est la même chose.
Moi, j'ai un père guinéen et une mère sénégalaise. Au départ, c'était mes grands-parents. Ils ont fait la guerre d'Indochine avec les Français. Et du coup, quand ils sont revenus au pays, on les a traités d'escrocs. Du coup, qu'ils n'étaient pas des vrais noirs, du coup. Du coup, on nous traitait comme des Français. Du coup, on était obligé de quitter le pays. On ne pouvait plus revenir chez nous. Et on est parti au Sénégal pour après ensuite venir en France.
Moi, j'ai eu des papiers, c'est grâce à mon grand-père. Parce qu'il a fait la guerre avec la France, je crois, je sais pas quand.
Toi, t'es d'origine
algérien.
C'est d'être la guerre d'Algérie, alors.
Ouais. Et ils lui ont proposé entre de l'argent et les papiers. Il a choisi les papiers et il a eu les papiers français.
1979-1980. Les femmes latino-américaines sont parmi les premières à s'engager dans la mobilisation politique en France. Réfugiées politiques pour la plupart, elles apportent avec elles une expérience de lutte qui servira de modèle à d'autres groupes de femmes immigrées. Elles seront rapidement approchées et soutenues par les féministes françaises.
Pourquoi est-ce qu'on émigre ou immigre ?
Parce que notre pays natal, il est pas forcément favorable pour notre avenir. Il y a des guerres, des dangers.
Et si je viens d'un pays qui est pas spécialement en guerre, en tout cas pas sur mon terrain, et que la situation économique ça va, etc. Est-ce que je peux quand même émigrer ?
Bien sûr. Parce qu'exemple, si demain on a envie d'aller vivre en Amérique, juste comme ça, parce que c'est un endroit qui nous plaît. Ça serait cool aussi d'y aller et d'acquérir la nationalité si on veut y vivre, parce que c'est un choix. C'est pas spécialement quand un pays en guerre ou autre. C'est juste une envie.
1956-1972, déclin progressif de l'immigration italienne au profit de l'immigration espagnole et portugaise.
Comment ça se passe quand t'es immigré portugais ou espagnol comparé à quand t'es immigré arabe, par exemple ?
C'est-à-dire qu'en gros, comme quand t'es européen, les gens, ils vont pas trop faire de différence entre portugais et français. Enfin, ça se ressemble. Enfin, les cultures, non, mais bon, bref, ça va à la peau et tout, ça se ressemble. Mais quand t'es, je pense, maghrébin, les gens font plus de différence et voilà, ils te prennent pour un autre.
Tu ou tous cercanos han emigrado?
Toi ou tes proches ont déjà migré?
Si. Tengo un miembro de mi.
Oui, j'ai un membre de ma famille qui a émigré.
Es mi padre.
C'est mon père.
Puedes contar.
Est-ce que tu peux raconter son histoire?
Pues. Mi padre nació en España en 1910.
Bon, mon père est né en Espagne en 1910 en Andalousie, dans un village qui s'appelle Casalabonella, près de Malaga.
Cuando tuvo 26 años, empezó la guerra civil en España.
Quand il a eu 26 ans, la guerre civile a commencé en Espagne et mon père a lutté contre Franco avec les républicains.
En 1939, Franco venció.
En 1939, Franco a gagné la guerre et beaucoup d'Espagnols se sont enfuis. Ils sont partis d'Espagne, ils ont traversé les Pyrénées et ils sont arrivés près de Perpignan.
Allá, no sé exactamente lo que pasó, pero sé que mi padre fue encarcelado.
Là, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je sais que mon père a été emprisonné dans un camp de prisonniers à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales.
Pourquoi il a choisi la France pour émigrer?
Bueno, no ha realmente elegido Francia.
Bon, il n'a pas vraiment choisi la France. Je pense que la France était la seule solution pour lui et ses compagnons. C'est près de l'Espagne et sûrement ça représentait la liberté loin de la dictature de Franco.
Desgraciadamente, la Segunda Guerra Mundial empezó en Francia el mismo año y un año más en 1940.
Malheureusement, la même année, en 1939, la Seconde Guerre mondiale a commencé, et un an plus tard, en 1940, c'était le régime de Vichy et l'occupation de la France par le Troisième Reich.
Le droit de vote et l'éligibilité pour les femmes. Alors, le droit de vote, c'est comme son nom l'indique, le droit de vote. Éligibilité, j'ai pas compris ce mot par contre.
D'accord.
C'est en fait, à l'époque, il y avait que les hommes qui avaient le droit de vote. Et c'est-à-dire qu'en 1944, une loi a été votée pour que toutes les femmes puissent voter et être libres. En fait, c'est bien parce que comme ça, l'homme est plus égal à la femme et que ça supprime du sexisme, entre parenthèses. Et que voilà, on peut vivre tous ensemble et dans de meilleures conditions.
C'est bien que les femmes puissent voter, parce qu'avant c'était que les hommes et c'était pas égal. Du coup, c'est normal en fait.
Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes représentés?
Il y a plus de femmes.
Il y a plus d'hommes.
De quoi? Qui vote?
En politique.
En politique, j'ai cru dans le monde. Et ouais, il y a plus d'hommes. Je crois qu'il y a eu aucune femme présidente en France.
Pas encore. Pas en France. Non.
Enfin, il n'y en aura pas, je pense.
Oui, mais c'est possible. Enfin, c'est possible qu'il y en ait qui se présentent.
Ouais.
Mais il faut juste voter pour la bonne personne, quoi.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la transformation géopolitique et les besoins de la reconstruction inaugurent une nouvelle période d'arrivée d'étrangers en France. La situation économique et démographique du pays incite la France à recourir de nouveau à l'immigration étrangère, alors que celle-ci est jugée indésirable par l'État au début des années 1930 et sous Vichy. Près de 750 000 pères étrangers quittent la France au gré de force entre 1931 et 1945, dont environ 200 000 femmes. L'immigration féminine ne cesse alors de croître, passant d'environ 900 000 en 1946 à 1,5 million en 1968. 6 italiennes, espagnoles et portugaises sont fortement représentées dans les années 1950 et 1960. On assiste alors par la suite à une nette augmentation des flux en Provence d'Algérie et des anciennes colonies françaises.
J'ai une histoire à propos de ma mère, comme quoi, elle est venue en France, mais uniquement juste pour les études. Elle m'a dit, honnêtement, s'il y aurait des écoles comme en France, en Algérie, je serais resté, mais tous les jours, tu vois. Donc finalement, ensuite, de fil en aiguille, elle a été naturalisée. Elle m'a eu en France. Et du coup, elle a décidé de rester juste comme ça pour que je puisse avoir des études en France et pas en Algérie. C'est tout simplement pour le travail. Sinon, même parfois, elle se rend compte qu'en fait, le bled, ça le manque, tu vois. Un peu le mal du pays. Ma grand-mère, elle n'arrive pas à tenir 2 semaines en France. Genre, elle est toujours préoccupée, l'Algérie, comment ça se passe là-bas, parce qu'elle s'occupe de beaucoup de choses là-bas. Et ma mère, elle essaye un peu de lui faire retirer ce poids de gérer tout le monde pour laisser un peu d'autonomie. Parce que ma grand-mère, si elle vient en France, c'est pour prendre des nouvelles auprès de ma mère, de moi, comment ça se passe. Et donc, du coup, c'est juste pour les études, rien de plus. Sinon, genre, ça va jusqu'à avoir le mal du pays pour ma grand-mère ou mon grand-père. Donc voilà.
Au-delà des besoins économiques, la Convention de Genève sur les réfugiés reconnaît en 1951 ce statut aux Russes et aux Arméniens présents sur le territoire français depuis les années 1920, ainsi qu'aux républicains espagnols arrivés dans les années 1930. Auprès 1956, ce sont les populations des pays de l'Est, polonais et hongrois, notamment qui fut les régimes communistes, il s'agit à quelques exceptions près d'une immigration familiale. Malgré les efforts des associations et des pouvoirs publics, les conditions de vie des immigrés sont mauvaises. C'est la période des bidonvilles en périphérique dans les grandes villes, Nanterre, Champigny-sur-Marne, la Courneuve. Les femmes se mobilisent et s'organisent pour l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment à travers des cours d'alphabétisation qui leur permettent l'accès à l'emploi et une meilleure intégration. Certaines s'engagent aussi pour la libération nationale de leur pays d'origine.
C'est là le cas de nombreuses Algériennes qui participent à la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. Si parmi les pionnières, les Allemands et les Suisses s'occupent souvent plus dans le domaine de la domesticité. Dans les années 1960, la majorité des employés de maison et les femmes de ménage des grandes villes sont espagnoles et portugaises. Le stéréotype de la Conchita, habitant seule ou en famille, en petite chambre de bonne, est né.
Vous en pensez quoi, vous, une femme au pouvoir ?
Non.
Qui ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Parce que je pense que la plupart des hommes sont dans une situation où ils ne font pas confiance aux femmes et préfèrent élire des hommes. Et c'est pour ça que dans les 50 prochaines années, il n'y aura toujours pas de femmes au pouvoir.
Mais qu'est-ce que t'en fais ? Mais 50 ans, c'est quand même beaucoup. Hein. S'il faut, il y a une femme
Marine Le Pen, elle passera pas.
Mais enfin, il n'y a pas que Marine Le Pen. Genre. Là, pour l'instant, il y avait Marine Le Pen qui s'est présentée, mais il y aura peut-être d'autres femmes qui vont se présenter dans l'avenir.
En plus, il y a de plus en plus de femmes politiques.
Marine Le Pen, elle a failli passer. Genre, elle était presque à deux doigts de passer avec Macron, sauf que Macron, bah, il l'a explosé. Bon, Yachi, c'est pas grave. Mais si ça aurait été une femme qui aurait proposé des propos qui correspondaient un peu à tout le monde, bah, je pense qu'elle aurait pu passer.
C'est juste que leurs programmes ne sont pas forcément adaptés.
Merci. Surtout Marine, hein. Parce qu'en général, tous les étrangers votent contre Marine Le Pen et pas avec Marine Le Pen.
Il y a des étrangers qui votent pour elle.
C'est des youles.
Manifestation contre les crimes racistes à Marseille. Début des années 1980. Dans les années 1970 et 1980, la France est en proie à plusieurs vagues de crimes à caractère raciste. Les victimes sont principalement les jeunes hommes issus de l'immigration maghrébine vivant dans les quartiers populaires. Après la mort du jeune Laou Harry Ben Mohamed, abattu à Marseille par un policier lors d'un contrôle routier le 18 octobre 1980, les habitants des quartiers se mobilisent et organisent des manifestations dans les rues de la cité Fossène. Les femmes sont alors en première ligne en menant plusieurs rassemblements.
Sur l'image, on voit deux femmes en premier plan qui crient. Et derrière, on voit un homme. Et l'image, elle est en noir et blanc.
Marche pour l'égalité et contre le racisme, Levallois. De décembre 1983. Les trois marches pour l'égalité et contre le racisme de 1983, 1984 et 1985 donnent aussi à avoir la participation active des femmes, essentiellement des jeunes filles issues de l'immigration. Leur rôle dans l'histoire de ces mouvements de lutte pour l'égalité et contre les discriminations est essentiel, puisqu'elles sont à la fois créatrices, animatrices et coordinatrices de nombreux collectifs et associations qui mènent et participent aux marches. Même si certaines de ces filles refusent de dissocier la lutte pour l'égalité des droits de la lutte pour l'égalité femmes-hommes, d'autres, à la faveur du foisonnement associatif qui découle des marches, créent des structures destinées spécifiquement aux femmes de l'immigration.
Manifestation contre la loi PASCA. Paris, septembre 1986. En septembre 1986, la loi dite PASCA, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers. En France, portée par le ministre de l'Intérieur, Charles PASCA fait la une et divise la société entre pro et anti-immigrés. Sous la pression des manifestations et de la mobilisation qui fait suite à la mort de Malik Oussekine, étudiant tué par des policiers le 6 décembre 1986 à Paris. En marge de la manifestation contre la loi DEVAC, le texte de la loi sur la nationalité est retiré. De nombreuses femmes, notamment des jeunes filles, mènent le combat.
Est-ce qu'on peut voter en France quand on est étranger ? Enfin, ça veut dire quoi être étranger ? Là, vous dites les étrangers qui votent et tout. Est-ce qu'on parle vraiment d'étrangers ?
D'origine étrangère. C'est-à-dire que des gens qui sont venus en France, mais que maintenant, ils ont la nationalité française. Mais c'est juste que ces gens-là, ben, ils vont pas me voter Marine. Parce qu'ils savent que eux, la France, ils ont eu la possibilité de vivre en France, dans un meilleur pays que le leur. Et ils ont eu cette chance. Et voilà, ils aimeraient que d'autres personnes l'aient aussi.
Droit de vote pour les résidents étrangers. 1990.
Parmi les longues campagnes en faveur des droits des immigrés figure celle pour le droit de voter des étrangers. Dans les années 1990, plusieurs associations de femmes le soutiennent. Parmi celles-ci, les Nana Beur, association créée en 1985 qui s'intéresse entre autres à la question des droits civiques des femmes immigrées.
Sur l'image, on voit une femme souriante et l'image, elle est en noir et blanc. Et au-dessus d'elle, il y a marqué « Cette boulangère fait le pain des Français » et pourtant, elle ne vote pas.
Ils sont venus par milliers, les apôtres. Nous ont montés les uns contre les autres. Ils sont venus, sont même frappés à la porte. Non, non, pourtant chez eux, c'est nous, nous qu'on déporte. Ils nous ont divisés pour régner. Ma chérie a cédé. Ils nous ont divisés pour régner. Ma chérie a cédé. Couleur ébène, blanc, ivoire ou pommade. Les deux yeux qui t'aident à voir sont malades. Y a-t-il un cœur derrière ces automates ? Non, non. J'ai fui, je survis parmi les nomades. Ils nous ont divisés pour régner. Ma chérie. Papa, maman, ma liberté est morte. Enterrée sous des lois et bien des codes. Moi qui n'ai jamais tiré sur une corde. Non, non, à moins de mieux serrer mon cœur au vôtre. Ils nous ont divisés pour régner. Ma chérie. Je pouvais voler au-dessus des blessures d'un monde qui ne faisait pas son âge. Et j'ai pleuré et j'avais beau crier
lutte pour les droits de réalité de l'immigration Gênes Villiers, mars 2004. À la suite des différentes rencontres d'organisations de femmes résidant aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Espagne, l'Association des travailleurs maghrébins de France organise un colloque. Le constat de départ est que le croisement des parcours de toutes ces femmes a révélé la similitude de leurs préoccupations et de leurs combats. La lutte pour l'égalité des droits en Europe ne peut être envisagée sans articulation avec la lutte pour les droits de la femme dans les pays d'origine.
À partir des années 1990, les pouvoirs publics commencent à prendre en considération les dimensions féminines de l'immigration, longtemps confinées à une invisibilité institutionnelle.
Les associations et les autres acteurs de terrain mettaient depuis longtemps en avant la question de l'immigration féminine, avec tous les enjeux sociaux, économiques, culturels et politiques qui les caractérisent. Les femmes immigrées en tant que catégorie sociale sont enfin reconnues. La publication des premières études scientifiques sur la question, ainsi que la programmation de nombreux colloques et autres rencontres soutenues par des organismes publics témoigne de cette prise en compte, permettant ainsi de reconnaître leur rôle actif et essentiel dans la société et dans la construction de la nation.
Pourquoi es-tu partie de ton pays ?
Je suis partie de mon pays, le Maroc, parce que mon père, depuis la fin des années 70, vivait en France, dans le Tarn-et-Garonne. Il travaillait pour agriculteurs français.
Et comment est-ce que tu t'es intégrée ?
Alors, quand je suis arrivée dans le Lot, on n'a pas tout de suite habité en fait à Cahors. On a habité dans un petit village à Kayak, dans le Lot. Et nous avons été aidés par des personnes âgées qui ont essayé de nous apprendre le français. Et surtout, j'ai réussi après à m'intégrer grâce à l'école. L'école au CP, en fait, j'avais une enseignante qui me prenait tous les mercredis après-midi et tous les week-ends à sa maison pour que j'apprenne le français, puisque j'avais 8 ans quand je suis arrivée.
Et raconte-moi ton parcours.
Alors, mon parcours, donc je suis arrivée en France, j'avais 8 ans, je ne savais ni lire ni écrire le français, puisqu'au Maroc, j'avais été à l'école à la fois coranique, donc l'école coranique, c'est qu'on apprend la religion, c'est un peu l'équivalent à l'époque de l'école maternelle, et ma mère s'était battue pour que je puisse aller à l'école normale. Parce qu'en fait, à l'époque, quand j'habitais au Maroc, j'habitais dans un petit village à la campagne et les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Et donc ma mère, qui est analphabète, donc c'est-à-dire elle ne sait ni lire ni écrire, ne voulait pas que ses enfants vivent la même chose, parce qu'elle a bien compris que c'était un handicap. Donc elle avait demandé au chef du village de m'autoriser à aller à l'école, puisque moi je gardais, j'étais bergère en fait, je gardais les chèvres, les moutons et les vaches. Le chef de village au départ avait dit non. Et ma mère avait dit, ben, si vous acceptez pas, je l'amènerai de force. Et il a été obligé d'accepter parce que à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de sortir du village. Et vu que mon père était en France, il a été contraint d'accepter. Donc je partais avec les garçons du village tous les jours à pied, on partait vers 5h, entre 4h30 et 5h du matin, après avoir trait les vaches. On marchait, on faisait à peu près une quinzaine de kilomètres à pied. Et donc j'allais à l'école et le soir je refaisais les 15 kilomètres à pied. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée en France, j'ai eu une scolarité plutôt réussie puisque j'ai fait l'école élémentaire sans jamais redoubler, le collège sans jamais redoubler, le lycée sans jamais redoubler. Et j'ai fait l'université, donc j'ai eu la chance de faire un bac plus 5 en sociologie et après j'ai fait un bac plus 5 en économie, en gestion, pardon, management des entreprises et j'ai réussi à trouver du travail. Mais tout ça grâce à l'école et à tous ces enseignants qui m'ont aidé à apprendre à lire et à écrire le français.
Et est-ce que tu avais envie de partir de ton pays ?
Non, je pense que, à part quand on est dans un pays en guerre, on n'a jamais envie de partir de son pays. Bien sûr que ça a été douloureux, parce que j'ai quitté mes amis, ma famille, les animaux que j'avais, mon école. Puis ça s'est passé un peu du jour au lendemain, puisque pourquoi aussi je suis partie, c'est que mon père avait réussi à avoir les papiers pour que sa femme et ses enfants le retrouvent en France.
Le rassemblement familial.
Le regroupement familial.
Oui.
Voilà, donc c'est difficile. Après, en grandissant, je sais que bien sûr que je ne regrette pas de vivre en France, parce que la France est quand même un pays où je suis libre. J'ai le droit d'aller à l'école en tant que femme, j'ai le droit de travailler, alors qu'au Maroc, c'est pas le cas. Je pense que je n'aurais jamais eu ce parcours si j'étais restée au Maroc. Déjà, comme je vous ai expliqué, ça a été difficile d'accéder à l'école élémentaire. Alors, je pense que au collège, au lycée et à l'université, j'aurais pu jamais y accéder et j'aurais pas pu faire le travail que j'ai choisi de faire. J'aurais pas pu choisir aussi mon mari, parce qu'en plus, je suis d'un couple mixte, donc c'était encore plus compliqué puisqu'il y a le poids de la tradition au Maroc qui est la femme, à l'époque, la femme ne choisissait pas son mari. Il y avait beaucoup de mariages obligatoires. Voilà.
Manifestation des sans-papiers, place de la République, Paris, 3 septembre 2005. Entre femmes du mouvement pour la régularisation des sans-papiers, une nouvelle appellation commence à circuler à partir des années 1980, celle des sans-papiers. Cette spécificité révèle la volonté de reconnaissance de leur participation aux luttes. Au sein du mouvement sans-papiers, elles doivent en effet souvent faire face à des hommes qui souhaitent les confiner à des tâches traditionnellement réservées aux femmes, s'occuper du foyer et des enfants. Pour les hommes, la lutte pour les papiers qui a lieu dans l'espace public est souvent considérée comme une prérogative masculine.
Dans les quartiers les plus défavorisés, des cours d'alphabétisation ont été gérés aux formations professionnelles. En passant par les campagnes de sensibilisation pour les droits de vote des étrangers, la participation de ces femmes à la vie citoyenne est une réalité de plus en plus présente dans la société française. D'autres associations mettent en avant l'importance économique et sociale des femmes immigrées, en encourageant le partenariat entre les entrepreneurs et la diaspora en France et leurs concerts restés dans les pays d'origine. Néanmoins, malgré cette structuration croissante, les primo-arrivants sont encore aujourd'hui confrontés à des difficultés similaires à celles de leurs aînés arrivés en France 100 ans auparavant. Emploi mal rémunéré, conditions de travail et de vie difficiles, lutte pour obtenir de papiers et reconnaissance du statut de réfugié, risque de traite d'êtres humains.
En 2014, l'Organisation des femmes africaines de la diaspora, OFAD, et le Club des africaines entrepreneurs d'Europe, CLAEE, organisent le premier forum économique de la femme africaine de la diaspora. L'objectif de ces organismes est de faire émerger une réalité entrepreneuriale, souvent informelle, et de la faire reconnaître aussi bien par les autorités françaises que par les pays d'origine. Selon une étude récente de la compagnie de transfert d'argent Western Union, les femmes de la diaspora transforment beaucoup plus d'argent que les hommes, même si leurs revenus ont tendance à être inférieurs à ceux des hommes.
2014.
Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Donc, on a vu que déjà, pour le même travail, les femmes étaient moins payées que les hommes. Et du coup, on savait pas trop pourquoi, en fait, étant donné que c'était le même travail, les femmes devraient gagner moins. Cette loi, dans un sens, elle est pas mal parce que ça permet de mettre les hommes et les femmes, en tout cas sur niveau métier, niveau salaire, sur un même pied d'égalité.
Moi, je pense, que les femmes, elles peuvent tout faire. C'est pas question de capacité physique ou quoi que ce soit. Maintenant, avec la technologie, on peut compenser ça. Elle peut faire tous les métiers.
Bah, moi, mon avis, c'est que je pense que l'égalité homme-femme prend de plus en plus d'ampleur. Et je pense que c'est en train de se concrétiser de plus en plus. Rien que, vu que là, on est en troisième pendant nos stages, dans l'entreprise où j'étais, il y avait quasiment autant de femmes que d'hommes.
Moi, je trouve aussi, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y aura jamais d'égalité homme-femme. Parce que depuis la préhistoire, les femmes, ils ont un rôle en dessous des hommes. Ça a toujours été les hommes, ça a toujours été les chefs ainsi de suite. De génération en génération, ça a toujours été comme ça.
Ah, c'est pas valable pour toutes les femmes. Ça, l'histoire du père qui ramène l'argent à la maison, ça marche pas comme ça pour tout le monde. Hein.
Bah, les femmes célibataires, par exemple, qui ont un enfant mais qui sont divorcées, tu vois.
Ouais. Faut qu'ils se décarcassent pour trouver de la nourriture à son fils ou à sa fille. Eh ben, faudrait que.
Mais c'est plutôt rare, ça.
Maintenant, ça se fait de plus en plus. Franchement, je vais pas te mentir, il y en a beaucoup. Franchement, je connais beaucoup de femmes qui travaillent. Mais après, moi, par exemple, ma mère, elle est mère au foyer. Elle fait comme il a dit. C'est ouais.
Moi, je trouve que, par exemple, la plupart des mères au foyer, c'est des musulmanes qui portent le foulard et qui peuvent pas travailler parce que la loi, l'État, etc. Il laisse pas ces personnes travailler. C'est l'État qui veut pas laisser travailler les femmes parce qu'ils ont le foulard, on sait pas pourquoi. Juste parce qu'ils ont un morceau de tissu sur leur tête, ils les laissent pas travailler. Je vois pas que, on dirait, ça réduit leur capacité de travailler.
C'est comme de la discrimination, quoi.
Ouais, voilà. Ma mère, elle porte le jilbab, c'est comme le foulard, mais sauf que ça couvre tout le corps. Et un jour, elle était dans un cabinet médical et elle est partie dans une salle d'attente. Et il y avait une vieille, elle lui a dit, elle lui a même pas dit bonjour au début. Après, elle lui a dit, vous croyez que c'est le carnaval? Après, il y a deux personnes noires, des femmes, ils lui ont dit, occupez-vous de vos affaires. Après, il y a un autre monsieur, un peu vieux, il lui a dit, il a défendu ma mère. Après, je sais pas, cinq minutes après, la vieille, elle a continué à parler. Elle lui a dit, alors comme ça, vous dites même pas bonjour, il est où le respect? Et après, elle a dit, avec ce que vous avez fait, vous ne méritez pas. Et après, c'est fini. Après, c'est un peu bizarre. C'est comme si on interdit quelqu'un de mettre des chaussures ou de mettre un pantalon. 2010, loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public situé aux polémiques sur le port du voile intégral. En fait, ils interdisent les femmes de porter ce qu'on appelle un niqab. C'est un voile qui cache tout le visage sauf les yeux. Et ils ont interdit de porter le niqab dans les espaces publics. Les écoles, les mairies.
Mais, du coup, on a fait des recherches, on a sur le voile, mais on voit pas trop pourquoi est-ce que y a cette loi qui existe. En fait, on voit pas en quoi porter le voile, ça peut déranger les personnes. Par exemple, on a vu comme quoi il y a une histoire où il y a une femme qui allait voir une représentation, elle avait le voile justement. Et elle s'est fait virer de la salle parce que justement elle avait le voile et du coup même elle avait payé avec son enfant et du coup ils sont partis.
J'ai aussi entendu parler comme quoi les femmes voilées seraient des sorcières. Après BFM, hein. Jusqu'au bout.
Et après on va dire qu'ils camouflent ça en disant que la femme est soumise alors que c'est son choix. De vie.
Bah, c'est un peu privé du coup quelqu'un de pratiquer sa religion, c'est retirer quelque chose d'une personne alors qu'elle souhaite vraiment genre pratiquer sa religion librement. Mais le fait que cette loi existe lui empêche de la pratiquer.
En plus, c'est pas, enfin, une fois qu'on fait ça, pour moi, il y a pas de laïcité, il y a pas de liberté, il y a pas d'égalité, il y a pas de fraternité. En fait, ce que la France elle doit être, bah, y a pas.
Bonjour,
Je m'appelle Minka. Je suis un immigré d'origine camerounaise en France. Voici mon histoire. J'étais étudiant au Cameroun. J'ai eu une bourse d'études pour aller en Arabie Saoudite en 1992, où j'ai fait mes études et j'ai appris la langue arabe. De l'Arabie Saoudite, je suis allé au Liban, où j'ai amélioré mon arabe littéraire. Et du Liban, en 2002, j'ai eu une invitation des amis que j'avais connus au Cameroun, qui étaient installés en France, aux Deux-Sèvres. Et de là-bas, j'ai rencontré mon épouse en 2002. Et on a eu une fille. Et compte tenu de la vie, la qualité de vie, je suis resté en France. Et en 2003, je me suis marié avec mon épouse. Et après New York, nous sommes venus à Toulouse, où je suis actuellement responsable de la plomberie et du chauffage dans mon entreprise. Merci.
Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M, y'a un type qui gueule. Eh, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Mais t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents. Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente. Marche sur le trottoir d'à côté. T'es une poufle, c'est devenu courant. De l'entendre trois fois par journée. T'as un hume, peut devenir violent. Si tu donnes pas le vrai, bats-toi fille. T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. Deux minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante. J'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici, tout le monde est parti. Ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vas quand même pas refuser. Façon si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première, passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents. Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente. Marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant. De l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. Bats-toi fille. T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi, t'as un message instantané. Hey, salut l'ami, c'était vraiment très sexy, on pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma tub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne, qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé. Mais moi, je payerai même pas pour des nems à volonté, parce que t'en vaux pas la peine. De toute façon, t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr, tu fais la mort parce que tu te crois au-dessus. Tu t'es pris pour Rihanna quand je suis en bas dans ta rue. On verra ce que tu feras. Souffle, serre les dents. Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente. Marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant. De l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. Bats-toi fille.
Donc ma cousine de Porto Rico. Ma famille, elle est originaire de San Juan, la capitale. Et en fait, sa mère, elle est morte quand elle a accouché de ma cousine. Donc elle s'est retrouvée avec son père et son grand frère. Et sauf que son père, c'était un drogué, c'était pas facile, il buvait de l'alcool, il s'occupait pas vraiment d'eux. Et à un moment, son grand frère, il a atteint la majorité, donc il a quitté le pays sans rien dire à personne. Donc elle s'est retrouvée toute seule avec son père. Et son père, il a commencé à la vendre, en gros. Elle était une prostituée. Genre, contre des sachets de cocaïne, elle devait passer des nuits avec des hommes. Et donc, ça s'est passé de ses 12 à, je pense, 16, non, pas 16, 17, 16 ans. Et elle allait pendant ce temps, elle n'allait pas à l'école. Enfin, elle y allait rarement. Et donc, je ne suis pas vraiment sûre, mais à ses 17 ans, elle a pu aller au lycée. Et c'est là qu'elle a rencontré une de ses profs qui l'a aidée à... Enfin, elle a raconté son histoire à sa prof. Et donc, je crois que ça a été alerté à la police. Et donc, au bout d'un moment, ils ont pu avoir des aides pour qu'elle puisse s'enfuir, partir, ne plus vivre avec son père. Et il y a eu une aide, elle est partie en foyer, je crois. Et ensuite, je sais pas vraiment comment ça s'est passé, comment elle a pu arriver en France, mais je sais que il y a ma tante qui habitait déjà en France, qui a pu rentrer en contact avec elle, et donc ils ont fait les démarches pour qu'elle puisse arriver en France. Et maintenant, elle est à Marseille et avec ma tante, et voilà.
1975, loi Veil pour l'interruption volontaire de la grossesse. L'interruption volontaire de grossesse, c'est par exemple si on avorte, c'est des personnes qui avortent et qui ils voulaient pas forcément un enfant non désiré, donc ils prennent la pilule ou je sais plus quoi, ce genre de truc. Et voilà.
Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire. Parce que c'est un enfant quand même, c'est un embryon. Et il mérite la vie comme tout être humain.
Les autres, vous en pensez quoi?
Et si tu veux pas d'enfant,
on pourrait très bien le mettre dans un orphelinat.
Pourquoi on veut pas un enfant?
S'il faut, on n'a pas les moyens de l'assumer.
On est tombé enceinte beaucoup trop jeune, on n'accepte pas les responsabilités de l'enfant.
Quand on n'était pas prêt à avoir un enfant, quand il n'était pas désiré.
Quand c'est trop jeune.
Je trouve que c'est une bonne cause, mais ça se fait pas trop d'enlever la vie d'un enfant, quoi.
C'est à la femme de choisir, peut-être qu'elle a été violée ou qu'elle veut pas garder l'enfant parce qu'elle n'a pas les moyens de le garder.
Moi, je suis contre.
Moi, je suis pour.
Mais je comprends les gens qui avortent. Vas-y. Enfin, ça dépend des cas.
J'ai dit que j'étais contre parce qu'il y a toujours une solution à tout, dans le sens où même si on veut pas l'enfant, on l'accouche et on peut le mettre dans des familles d'accueil, un orphelinat, il y a toujours une solution à tout.
Donc tu préfères accoucher un enfant que tu veux pas et l'envoyer dans un orphelinat?
Si je le veux vraiment pas, oui, mais en général, justement, pendant la grossesse, tu vas créer des liens avec l'enfant et tu vas dire, il y a moyen que je le garde.
Oui, mais des fois ça n'existe pas, le lien. Même quand tu accouches un bébé, tu ne l'aimes pas forcément dès après.
Donc justement, il faut le mettre autre part que chez toi. Mais pas le... le tuer.
Non, mais c'est pas tuer, il est pas vivant.
Oui.
Scientifiquement, sorte. Il est pas vivant.
Et physiquement?
Oui, mais
non plus. C'est un embryon.
Mais ouais. C'est tout petit comme ça.
Mais c'est quelque chose.
Oui, mais bon...
Oui, avec le micro rouge. J'ai pas bien entendu, compris ce que t'as dit, là, ça m'intéressait.
J'ai dit que ça veut dire pas que, on accouche un enfant, qu'on a déjà des liens avec l'enfant. Même pendant la grossesse ou même quand tu l'as dans les bras. l'instinct maternel, il vient pas comme ça. C'est pas né, tu l'apprends. Moi, pour vous dire, ma mère l'avait pensé à l'avortement quand elle m'a eu. Parce que j'étais pas dans ses projets, quoi. Mais après, elle m'a gardée.
Tu vois, imagine, elle aurait avorté. Tu vois ?
Oui, mais le problème, c'est que je peux pas trop lui en vouloir parce qu'elle m'a eu à 23 ans, elle venait à peine finir ses études.
Non, mais je sais, c'est pas ta faute, hein, y a pas de souci. Genre, imagine, hein. Là, tu serais pas là avec nous.
Oui.
1993, loi NERDS, condamnation de l'entrave à l'IVG.
Alors, l'entrave à l'IVG, c'est quand on interdit à une femme d'avorter, c'est ça ?
Non. Ouais.
C'est quoi ?
En fait, je crois que c'est quand on condamne des médecins qui refusent. De pratiquer des IVG sur des femmes.
Et pourquoi vous avez choisi cette date ?
Parce que selon nous, c'est à la femme de choisir si elle veut avorter ou pas, et non au médecin.
Je suis pas du même avis.
Pourquoi ?
Bah, parce que si on se met du point de vue du médecin, si... parce qu'imaginons, lui, il n'aime pas vraiment cette coutume d'avortement, bah, il n'a pas envie de l'effectuer sur quelqu'un.
Ouais, c'est son métier, c'est pas à lui de décider, c'est tout.
Ok, il peut pas être d'accord sur le fait d'avorter, mais... C'est son travail, donc.
C'est son travail, mais il a le droit de dire non.
Oui, mais qu'il soit pas médecin, alors.
Ces ateliers radio sur les femmes de l'immigration de 1945 à nos jours ont eu lieu au Collège Toulouse-Lautrec de Toulouse entre les mois de janvier et mars 2020.
Merci aux élèves de 3e 5 pour leur implication, leur énergie et leur questionnement, ainsi qu'à leurs proches qui ont accepté de raconter leur récit.
Merci à Emmanuel Degnaud, leur prof d'histoire, pour son accueil et pour son aide.
Et merci aussi à Canal Sud pour les moyens techniques.
Dans cette émission, vous avez entendu deux morceaux choisis par les élèves, Divisé de Zao et SLT de Suzanne.
On vous laisse avec la troisième chanson.
Attention, l'émission n'est pas tout à fait finie.
Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé ? Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes ? Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho.
Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne, coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise, besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays, exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système, insurgés du règne mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés pour dire non. Fils de la liberté, on se doit d'œuvrer. Parce que leur monde depuis la mort, que tout le vivant est wanted, qu'il ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu dans sa quête des regrets, plein les doigts, dit aux tortionnaires qu'on ne laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite, le même qui pourra faire du destin collectif une tragédie.
Veuillez nous excuser pour cet incident technique, il semblerait que nous ayons quelques problèmes.
Excusez ces problèmes techniques, faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous cause. Notre lutte est légitime face à une politique holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles, telle et telle guerre tirant profit du centre de terre mère.
Comment elle s'appelle l'artiste?
Kenny Arcana.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu votre choix?
Bébé pour vérité, hein.
C'était quoi les contraintes pour choisir de la musique?
Bah si, vous avez dit que c'était pas, fallait pas que ce soit un garçon.
Ouais.
Donc ce soit quoi quand c'est pas un garçon?
Une fille. Bah, c'est une fille quoi.
C'est une fille qui a grandi dans les cités de France et comment s'appelle et Van elle exprime sa haine envers le système qui l'entoure et qui nous entube, j'ai envie de dire.
Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Se prépare le terreau hors pair du plus grand génocide. La famine dans les pays riches, répression mais aussi des épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour businesser un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être avec une puce de dents reste pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. L'Occident construit des camps, l'Europe s'apprête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés.
Oh, qu'est-ce qui se passe en régie?
Ça y est, on a l'antenne.
Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour...
Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices, l'espoir d'un nouveau souffle, la quête n'est pas terminée, l'humanité, chaque instant est propice, contient l'éternité, soldat de la paix, ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine, béni soit ceux qui s'interposent, ceux qui construisent autre chose. Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux,
car le monde sera votre propre sang.
Youssef, comment tu pourrais dire qu'il nous entoure autrement?
Qui nous...
Téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. La police nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur service et qualifié.
Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas. Pas de débat face aux dégâts. Le mensonge sort de la bouche des médias. Ils veulent nous baïonner. Aux tortionnaires distribuent des médailles. Le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Coup d'éclat venu clamer à vous autres. Oh, et qu'on a plein de belles choses à construire et que personne viendra nous sauver. Tout sonner dehors, sur la foi reste l'or. Êtes-vous d'accord? Que ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme. Révolution intérieure, dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. L'urbain sera l'exode, que le verbe nous honore. Car c'est les enfants de la terre contre les armées du vaudor. Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes qu'on ghettoise. Rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous diront terroristes. À l'antenne, c'était Arca du clan des Wanted. Comme un écho d'une promesse lointaine.
C'est des conneries.
Mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge.